puisque on est censé répondre à toutes les questions qui sont restées un petit peu en suspens, puis on va répondre aux questions propres à notre table ronde. J'espère qu'on sera à la hauteur de cet enjeu. Alors, on a entendu depuis hier énormément de choses, c'était extrêmement riche. On a entendu beaucoup de choses sur la construction de cette représentation sociale des personnes en situation de handicap. On a entendu des choses sur les niveaux de coopération, les recherches de financement nouveaux, une certaine, je dirais, effectivité du droit, comment le faire, comment la mettre en œuvre. Donc, modestement, on a intitulé cette table ronde de dynamiser les politiques territoriales de soutien à la formation et l'insertion professionnelle, puisque on dirait que le territoire devient aujourd'hui ce dernier creuset où on a l'impression que la décentralisation va pouvoir traduire efficacement les politiques nationales. Donc on va parler autour de cette idée de politique territoriale de soutien à la formation et à l'insertion professionnelle avec quatre personnes. Le professeur Corinne Grenier, qui est professeur habilité à la direction de recherche, qui est directrice scientifique du pôle santé sociale à Euromed Management et qui est chercheur rattaché au laboratoire CERGAM à l'Université de Marseille 3. Avec Jean-Paul Parizeau, directeur territorial ouest de la GFIP, que tout le monde connaît bien, avec Pete Stone, qui se présentera lui-même beaucoup mieux que je ne le peux le faire, mais qui est à l'origine d'une entreprise, de coaching au recrutement qui s'appelle Just Different, et qui est anglais.
Très bon accent.
Et Patrick Fèvre, qui est directeur à la Fondation Santi Fontaine d'établissements et services et membre, bien entendu, de la FISAF. Alors, je veux commencer cette table ronde par une interpellation, bien entendu, à M. Parizeau autour de je dirais... Donc, quand on avait rencontré, la FISAF avait rencontré le directeur général de la GFIP, M. Blanc, on avait proposé à M. Blanc d'intervenir dans la table ronde qui s'intitule, la précédente, « Soutenir l'accès à l'emploi et la vie au travail ». Et M. Blanc nous avait dit « c'est plus tellement conforme à la stratégie de la GFIP aujourd'hui et je préfère intervenir à la dernière table ronde ». Au dernier moment, M. Blanc n'a pas pu se rendre ici. Et vous le remplacez, je vous en remercie. Mais l'idée, c'est que là aussi, me semble-t-il, il y a, d'après notre histoire, l'histoire de ce secteur, l'histoire de la GFIP dans ce secteur, il y a un véritable changement aussi de paradigme dans les propositions de la GFIP. Et votre dernière, je dirais, présentation de l'activité 2012-2015 le montre bien. Donc je voudrais commencer par là et vous dire en quoi consiste ce changement presque radical de philosophique sur le paradigme que la GFIP et pourquoi ce paradigme nouveau de la part de la GFIP.
Alors merci de cette invitation et de nous donner la possibilité d'intervenir effectivement sur cette table ronde. Essayer de répondre simplement à votre question. Le changement, il va se matérialiser peut-être de façon très visible, matériellement par l'évolution d'une offre d'intervention et de nos aides qui va intervenir à partir du 2 janvier, parce que le 1er janvier, personne ne sera réellement opérationnel. Mais plus sérieusement, c'est aussi le fruit d'une évolution qui n'est pas très récente et qui remonte, on va dire, globalement aux alentours de 2007. Donc ça fait quand même 5 années que la GFIP a évolué. Et dans le cas présent, la stratégie que notre conseil d'administration a arrêtée qui a été publiée, elle repose essentiellement sur deux piliers, l'accès au droit commun pour les personnes handicapées et le renforcement, massif du pilotage et en particulier du pilotage régional, d'où la question de l'intervention sur la notion de territoire. Par rapport à ce registre du pilotage, autant l'accès au droit commun, c'est quelque chose que l'on identifie de façon claire, mais le droit commun, pour nous, c'est bien l'accès au droit commun. En général, on parle de la formation professionnelle, on pense tout de suite l'offre des politiques des conseils régionaux, on pense tout de suite à celle de Pôle emploi, etc., etc., etc. Mais c'est aussi l'offre de droits communs spécifiques, et on a à travers, par exemple, les MDPH, une offre de droits communs spécifiques et propres aux personnes handicapées. Donc ce que nous recherchons, et ce que nous avons recherché dans la nouvelle offre des interventions, c'est d'essayer de nous concentrer sur un certain nombre de sujets, de publics et d'objectifs qui permettent de travailler sur cette notion de renforcement de l'accès des personnes handicapées aux droits communs, et qui se traduira opérationnellement par ce que j'ai appelé tout à l'heure le renforcement du pilotage, et en particulier du pilotage régional, pour permettre d'avoir une bonne adéquation avec les contextes locaux. Et quand je parle de contexte, c'est pas le problème de climatologie, mais les interventions, la disponibilité des aides, etc., est variable d'une région à une autre, j'allais presque dire d'un canton, quand même, il ne faut pas exagérer, mais d'un département à l'autre. Sur cette logique de pilotage régional, en fait, elle repose sur la nécessité d'évaluer les résultats, évaluer les actions, les effets, aussi bien des aides, des prestations ou des services que nous mobilisons. Ça nécessite également, et ça c'est quelque chose qui dépassera quand même quelque peu la GFIP, mais pour nous ça constituera effectivement une des pistes de travail les plus importantes, c'est l'amélioration de l'outillage statistique, qui est particulièrement, insuffisant en France sur les problématiques de handicap, et qui est la condition de base et de référence pour la condition de base et de référence. Excusez-moi, je suis un peu troublé par la vision d'un verre de vin rouge, donc
l'arrivée de notre collègue.
Ça doit être la proximité bordelaise qui fait que c'est de la réaction.
Son verre de vin rouge et son petit dessert dans la verrine, oui, c'est vrai que c'est assez troublant, mais très très sympathique aussi.
Ah, complètement, mais
voilà.
Bien, donc très concrètement, pour en revenir à cette question de l'outillage statistique, effectivement, c'est un sujet qui est important, puisque même vital, puisque vous ne pouvez pas travailler raisonnablement sur des quantifications de besoins, sur une approche fine de cette analyse, si vous n'avez pas les outils statistiques qui permettent de le faire. On sait actuellement que c'est un problème majeur. Je vais prendre deux exemples que vous avez d'une manière directe ou indirecte traitée ce matin, c'est celui de l'apprentissage. Comptez, ça vous allez beaucoup plus loin avec une ambition mesurée, comptez le nombre d'apprentis handicapés, ça relève alternativement selon les régions du Mar de Café et de la voyance extralucide, jusqu'à un ciblage et une approche, j'allais dire, très rationnelle, comme l'a mis particulièrement en œuvre la région Pays de la Loire. L'autre sujet, celui de la formation professionnelle, on n'a qu'une partie émergée de l'iceberg, là aussi. Combien de personnes, sans parler de la nature du handicap, des difficultés, du chômage et de l'âge de ces personnes, combien de personnes handicapées accèdent-elles vraiment à quel type de formation? Cette problématique, elle est j'allais dire, diluée dans des responsabilités diverses. Prendre trois exemples des trois grands acteurs de la formation professionnelle. Alors, le premier, la région, effectivement, selon les modalités qu'elle utilise vis-à-vis de la rémunération des stagiaires, ne va pas avoir et fournir les mêmes données, selon qu'elle passe par l'ex-CNASEA, rémunération du stagiaire d'information professionnelle. On sait qu'on aboutit à des données à peu près lisibles, selon qu'ils rémunèrent eux-mêmes, selon qu'ils rémunèrent par un autre prestataire. On peut ne pas savoir. Pôle emploi, Pôle emploi ne trace pas nécessairement le handicap dans ses accès à certains nombres de formations au sens où elle entre. Donc ces deux illustrations, alors c'est pas pour jeter l'opprobre sur un tel ou un tel, c'est simplement pour identifier une des difficultés. Or, comment voulez-vous avancer sérieusement et de façon efficace sur cette notion de la formation professionnelle si vous ne savez pas où vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller? Voilà.
Excusez-moi de vous couper. La nécessité, l'obligation même d'évaluer, que ce soit d'abord ce secteur avec ses activités, que ce soit les politiques publiques, etc., ça me semble une chose extrêmement évidente et partagée. Même le constat de l'insuffisance des outils statistiques ou de leur traitement, on est entièrement d'accord sur cette question-là. Mais est-ce que c'est cette question-là qui fait qu'il y a un changement de paradigme de la part de la GFIC?
Cette question, c'est pour nous quasiment, je ne vais pas dire un prérequis, mais en tout cas, ça ne s'empêchera pas que les choses avancent et se forment. Mais ce changement de paradigme, il repose aussi sur d'autres éléments. Celui-là, il permet de mieux voir, de mieux lire et de mieux piloter. Et ça, c'est en tout cas pour la partie qui concerne la GFIP, c'est-à-dire le pilotage de ces aides, de ces prestations ou des services que nous proposons. Ça fait partie effectivement de nous faut-il mettre les moyens à tel endroit plutôt qu'à tel autre pour répondre aux objectifs généraux qui sont les nôtres. Les deux derniers points, sont ceux à la fois de la mise en place d'une politique d'achat qui permet d'identifier.
Pardonnez-moi, d'achat de quoi ?
D'achat de services et de prestations qui permet de mettre en œuvre l'ensemble de nos prestations et de nos services. Sur cette notion de prescription.
Dans la logique aujourd'hui de la GFIP, la prestation spécifique des opérateurs de terrain, c'est-à-dire ce que nous appelons l'accompagnement de la personne, l'accompagnement individualisé de la personne, qu'il s'agisse de formation, qu'il s'agisse d'insertion professionnelle, de maintien dans l'emploi, vous le qualifiez-vous dans votre jargon, dans votre conceptualisation d'entreprise, l'achat d'une prestation?
Alors, effectivement, pour deux bonnes raisons. La première, une obligation légale. Nous sommes soumis à l'obligation de mise en concurrence liée à une ordonnance de 2005. Et donc, cette décision, elle est quelque part emportée par ce mécanisme. Mais c'est aussi un souci très général de management, des projets à proprement parler et de nos ressources. Voire des équipes et des intervenants. Et quand nous qualifions à la fois ce que nous achetons entre guillemets de services ou de prestations, c'est parce que ça correspond l'une et l'autre à des services ou à des prestations, prestations ponctuelles spécifiques particulièrement, études des aménagements des situations de travail, etc., ou services au hasard ça met. Ces mécanismes-là, ils sont pour nous aussi une évolution qui n'est pas, récente, puisque les premiers achats sont intervenus dans les années 2004-2005. Le système maintenant est clairement systématisé pour répondre à la fois à cette obligation légale, mais aussi à la nécessité de bien dire et de bien apporter une égalité de traitement des personnes sur l'ensemble du territoire. Ce qui n'était pas complètement le cas antérieurement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la dernière modalité qui va entrer en vigueur, qui est commencé à entrer en vigueur déjà sur certains sujets, c'est le principe de prescription. C'est-à-dire que nos partenaires services se sont placés en situation de prescripteurs d'aide, de certaines aides ou de certaines prestations, de telle manière que le besoin soit le plus fiabilisé ou sécurisé possible, puisque la GFI puis pas passer. Et c'est là où on aboutit à cette notion de paradigme, d'une position de subventionneur ou de massif, tel que nous l'étions jusqu'au début des années 2000, à maintenant une nécessité de développer une stratégie répondant à des contextes économiques, à l'évolution du public, qui n'est plus le même que celui que nous connaissions, au début des années 90 en particulier. Ce qui fait que, par exemple, notre offre de services et notre offre d'intervention et nos aides vont, pour certaines d'entre elles, être ciblées sur une partie du public, ce qui va remplacer, par exemple, les primes à l'embauche, c'est-à-dire l'aide à l'insertion professionnelle va être ciblée sur les seniors, va être ciblée sur les chômeurs de longue durée, parce que la ressource étant à notre niveau un peu moins importante qu'elle ne l'était dans le passé, eh bien, il faut qu'on en concentre nos moyens là où sont les principaux problèmes.
Je vous remercie de ce propos qui est extrêmement clair. Donc une politique qui change véritablement de paradigme, vous l'avez dit, d'une stratégie de subventionnement de l'offre de services à une stratégie de rationalisation, du comptage, de la distillation des réponses. Par ailleurs, on nous parle de globalisation des approches d'un individu dans sa globalité, de l'accompagnement global de la personne comme solution à ses problèmes. Et je dirais, cette stratégie a été validée, bien entendu, parce que je le sais, par un conseil d'administration paritaire où on trouve des représentants des structures, associations nationales proches des différents handicaps qui sont ici représentés.
Ah oui, mais, je veux dire, vous avez apporté la réponse en même temps que la question, donc je ne
sais pas. Non, c'était pour qu'il y ait une claire compréhension de la part de cette salle qui est tout à fait experte sur ces d'accord. questions, de ce changement radical de stratégie. Donc là-dessus, je voudrais interpeller Patrick Fèvre, qui est, alors je le dis avec amitié et affection presque, un opérateur de terrain, qui pendant de plusieurs années suit les travaux du groupe que nous avons baptisé Insertion Professionnelle. Alors comment, Patrick, toi tu reçois cette présentation extrêmement claire de la nouvelle politique de la GFIP?
Merci. C'est pas une tâche facile, mais bon, on va s'y atteler. Tout d'abord peut-être une réaction... parce que je découvre un peu les éléments que j'avais lus dans le cadre d'un communiqué de presse qui est quand même très récent. Donc il y a eu une évolution effectivement il y a 5 ans. Là il y a encore, je dirais, une confortation des objectifs et des méthodes dans un sens qui interroge. Dans ce que je viens d'entendre, il y a la notion de droit commun spécifique. Alors déjà ça m'interpelle effectivement. Est-ce que il peut y avoir une spécificité dans une approche par le droit commun, d'autant que en matière de handicap sensoriel, on est dans des problématiques à faible prévalence, et je me demande si au contraire la spécificité ne nécessite pas le recours à des dispositifs particuliers qui ressortiraient de la discrimination positive, par exemple. Si on traite le handicap sensoriel, l'accompagnement des personnes concernées dans une problématique d'insertion professionnelle de la même façon que des handicaps plus faciles à traiter par des dispositifs généralistes parce qu'ils sont plus, ils se rencontrent plus fréquemment, je pense que on aura une baisse globale d'efficacité. Donc ça, c'est la première interrogation. L'évaluation des politiques, l'évaluation des résultats, on est tout à fait d'accord, et globalement on partage le souci d'un renforcement d'efficacité des systèmes d'accompagnement, notamment sur ce qui a été évoqué par M. Parizeau, l'apprentissage, la formation professionnelle. Bien évidemment, il faut se fixer des objectifs et il faut déterminer des moyens. L'achat de prestations est un moyen, effectivement, c'est une politique de recours à une offre de service comme une autre, mais effectivement, ça peut heurter au plan culturel les pratiques de notre secteur, dans la mesure où on est plus dans l'accompagnement de la personne. Et l'accompagnement, ce n'est pas simplement le constat des besoins d'équipement d'un poste de travail, ça va bien au-delà, bien évidemment, et c'est peut-être là qu'il y a une incompréhension, peut-être... Mais on est sorti d'un système effectivement de subventionnement massif pour avoir recours à une achat de prestations de services. Peut-être y a-t-il des niveaux intermédiaires de partenariat qu'on n'a pas forcément exploré. Je fais partie des gens qui considèrent qu'une bonne politique publique est une politique basée sur des objectifs et une évaluation des résultats de ce qui a été mis en œuvre précédemment, mais également sur une concertation. Alors, bien évidemment, une politique validée par un conseil d'administration dûment mandaté, c'est une politique sur laquelle on n'a rien à redire quant à la légitimité de l'autorité qui l'a édictée. Par contre, je pense qu'une politique est efficace si elle est concertée, d'une part entre ceux qui la finance, les entreprises, ceux qui la commanditent, la GFIP en est le commanditaire, les bénéficiaires, bien évidemment, et les opérateurs. Et ça a peut-être manqué. Je pense qu'il aurait peut-être été préférable d'avoir cette concertation. Voilà un petit peu au niveau des réactions préalables. Alors je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour dire un peu la position du management, peut-être en concertation avec les collègues par rapport à cela. C'est que, bien évidemment, la GFIP est un des donneurs d'ordre dans notre secteur. On est confronté à un certain nombre de dispositifs publics qui financent les actions au profit des personnes. C'est des dispositifs de l'assurance maladie pour les enfants. Là aussi se posent des questions sur les parcours de formation. Quel métier, quel parcours, quelle alternance, quelle politique vis-à-vis des stages d'insertion socio-professionnelle, l'accompagnement en inclusion qui est aujourd'hui effectivement généralisé, mais qui en matière de formation professionnelle nécessite une attention toute particulière dans les filières professionnalisantes, les bacs professionnels, les BTS et autres filières. Donc il y a cet environnement de l'assurance maladie. Il y a également les conseils généraux, bien évidemment, qui financent des services d'accompagnement de la personne, mais l'orientation professionnelle n'est pas forcément directement visée. Il y a les allocations directes au profit des usagers, et là, on constate déjà parfois des trappes à inactivité, par le fait que quelquefois ces allocations n'encouragent pas forcément pour l'environnement familial ou pour la personne la recherche d'une activité professionnelle. Il faut avoir le courage de le dire, ça a été évoqué par d'autres personnes durant ces deux jours. La politique de compensation du handicap, et là on est dans une philosophie de solvabilisation de l'usager. Les MDPH, effectivement, c'est le volet technique. Les établissements et services membres de la FISAF sont très largement sollicités pour opérer les évaluations à la fois des besoins et des techniques. Et bien évidemment, ce n'est pas toujours dans un cadre solvable, puisque nombre de MDPH le demandent en considérant que les établissements sont déjà financés par d'autres dispositifs. Ça interroge également. Les dispositifs de rééducation pour adultes, là il y a une visée professionnelle pour partie, puisque les objectifs personnels et professionnels sont évalués en amont de la mise en place des programmes de rééducation fonctionnelle. Donc on est déjà dans une approche d'accompagnement à visée professionnelle. La GFIP, je n'y reviendrai pas, ça a été évoqué. Certains services sont très largement, historiquement, en relation avec ce donneur d'ordre important. Pour les prestations ponctuelles spécifiques, c'est horrible, prestations ponctuelles spécifiques. Est-ce qu'on fait une politique spécifique à partir d'actions ponctuelles? Je crois qu'on est déjà là dans un malentendu culturel, mais on pourra éventuellement y revenir. On pourrait citer bien d'autres dispositifs, les services de suite, les services universitaires, dont on a vu aussi qu'ils étaient remis en question dans leur mode de financement. Et pourtant, accompagner les étudiants handicapés, c'est important. Alors, effectivement, selon l'âge, selon le statut, patient, usager d'un service médico-social, mineur, majeur, handicapé, âgé. Donc, il y a des dispositifs multiples, des dispositifs qu'il convient d'articuler. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement la coordination autour de la personne. Et je crois que seule une notion de centre de ressources permet effectivement d'articuler les dispositifs autour des personnes avec une logique régionale, parce que c'est sans doute le cadre, c'est le cadre des ARS, principal donneur d'ordre du secteur. C'est le cadre effectivement où la prévalence est suffisante pour avoir sur un territoire donné un certain nombre de personnes concernées par le handicap. Mais il y a des difficultés. Je le disais, les MDPH ne financent pas partout les évaluations des aides techniques. Les services de rééducation fonctionnelle qui ont été mis en place depuis 2003 sont des services qui vont passer en tarification à l'activité, avec une spécificité qui aujourd'hui n'est pas reconnue, hein, puisque le décret qui définit les classifications des SSR n'a pas défini de spécialité en déficience sensorielle. Et puis la prise de risque, depuis effectivement que la GFIP a mis en place en 2007, pour ce qui nous concerne, les PPS, ce sont les opérateurs qui prennent le risque. Risque de ne pas être désigné, évidemment, risque de ne pas être renouvelé, risque que les prestations évaluées par la GFIP ne correspondent pas, au volume réel des prestations effectuées. Dans le cas de mon établissement, moins de 5% de ressources de chiffre d'affaires viennent de la relation avec la GFIP. Il y a eu un surdimensionnement. Les moyens mis en place aujourd'hui sont trop importants. Donc c'est un déficit. Ce déficit, il pèse sur le budget d'établissement. C'est une recette en atténuation. Donc c'est l'assurance maladie qui compense. Donc une politique au service de l'entreprise est compensée quand on a un déficit par l'assurance maladie. C'est donc un transfert de charges de l'entreprise vers l'assurance maladie. Donc il y a quand même des questionnements hein, sur ces pratiques.
Alors, moi, je voudrais rester un tout petit peu sur cet échange, parce que je voudrais renouer le dialogue avec l'expertise de terrain et puis la puissance, les donneurs d'ordre, etc., et essayer de creuser cette idée-là avant de, bien entendu, donner la parole aux autres participants à la table ronde. Parce que, d'un côté, à tort ou à raison, on se considère comme des experts de l'accompagnement, qu'ils soient sous forme de scolarisation, de formation professionnelle, d'insertion professionnelle, maintien de l'emploi, etc., j'en passe. Donc on est sur des besoins et une notion de complexité, avec l'injonction, comme je disais tout à l'heure, d'accompagner la personne dans sa diversité, dans sa complexité, dans un parcours de vie, on nous parle de parcours de vie. Et de l'autre côté, j'entends, à juste titre, un souhait, un désir de rationalisation des moyens, puisqu'effectivement, il y a une diminution des moyens, etc., etc. Et j'ai l'impression que c'est un échange un peu paradoxal où on n'arrive pas à se comprendre. Et on disait tout au long de ces deux journées que une des solutions pour être plus efficace, plus efficient, c'était de s'acculturer un petit peu. Et on a l'impression qu'on fonctionne en vase clos avec ces injonctions un peu paradoxales. Et je voudrais juste demander à Monsieur Parizeau s'il pense que la statistique peut répondre à la complexité des besoins. C'est-à-dire si l'identification statistique d'un besoin peut correspondre à la complexité des besoins.
Bah, j'allais presque vous répondre. Vous avez déjà donné la réponse avec votre question.
Mais oui, parce que je suis assez pervers.
Le but de l'appareillage statistique, il n'est pas de répondre à des besoins individuels. Il est de voir comment évolue la situation. Je vais prendre un exemple. L'évolution du public handicapé. En 1990, le programme sur lequel nous avons vécu depuis est resté globalement le même, basé sur une analyse d'une situation qui n'est absolument plus ce qu'elle était dans les années 90. C'est aussi simple que ça. Si nous n'avons pas un appareillage statistique, on se base sur quoi ? On se base sur la sommation des besoins individuels des personnes pour aboutir à une situation qui devient observable au bout de plusieurs années et donc fatalement décalé par rapport à ce qui s'est passé. On aboutit à des situations telles que je l'ai entendu ce matin dans l'atelier qu'animait M. Tétissier sur le processus d'orientation. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est parce qu'on a un appareillage statistique, on ne se trompera pas. On peut aussi se tromper, on se trompera autant peut-être.
Je ne condamne pas la statistique du tout, hein, mais on a l'impression que cet outil statistique correspond, selon vous, si je comprends bien, à une évaluation des besoins, quelque part.
Non, il permet de dire que la situation des personnes n'est plus la même que ce qu'elle était. Et donc
et
que les objectifs et les priorités qu'on doit avoir ne sont pas les mêmes que ceux que nous avions antérieurement. Qu'effectivement, ce que l'on souhaite porter, c'est à la fois une évolution d'un système qui ne se fasse pas par la régulation et un changement à tout bout de champ d'aide ou de périmètre, etc., mais en donnant de la lisibilité, de cibler que les services et les prestations que nous mettons en œuvre se portent sur l'individualisation. Enfin, l'individualisation, c'est peut-être un terme un peu large, mais en tout cas, l'accompagnement et la réponse à des besoins d'accompagnement des personnes. Et que les aides vont servir quelque part à, je ne vais pas dire de point d'aboutissement, mais en tout cas de moyen par rapport à ce processus d'accompagnement. Voilà.
Alors, je vais prendre
le problème. Synthétiser comme ça.
Bien sûr. Je vais prendre un peu le problème à l'envers et peut-être que vous vous en souvenez, puisque c'est une opération, ça a été une opération extrêmement importante et riche pour la FISAF. À un moment donné, on avait voulu, dans la diversité effectivement du fonctionnement de différents services, initier une démarche qualité globale. Et on avait demandé à la GFIP de nous accompagner dans cette identification de nos prestations, dans cette plus grande lisibilité de nos prestations, de nos activités. Et ça avait conduit donc ce travail extrêmement riche à bien identifier les niveaux de prestations avec leur durée et leur coût pour homogénéiser l'offre de services sur les territoires et permettre aux différents services à peu près de faire la même chose à besoin égal. Et ce travail a conduit donc à une espèce de référentiel de prestations qui, petit à petit, est devenu un outil de gestion pour la GFIP et qui a conduit aujourd'hui, dans des situations économiques difficiles, j'en conviens parfaitement, à réduire la prestation, à réduire le temps d'intervention. Et aujourd'hui, on sent qu'on est dans, vous l'avez dit vous-même avec vos propres mots, dans le financement d'une prestation calibré au plus près des capacités de solvabilité, non pas par rapport aux besoins, mais par rapport à vos financements. Est-ce qu'au moins vous êtes conscient de cela ?
La prestation n'est pas calibrée en fonction de nos capacités, c'est le volume de prestation qui est calibré en fonction de nos capacités. C'est pas la même chose. Et c'est radicalement différent. Alors, on peut ne pas être d'accord sur le contenu de la prestation, sa dimension, etc., le champ, etc., etc., etc. Ça, c'est une chose. Elle correspond à ce qui apparaît dans un processus d'élaboration qui n'est pas aussi réalisé dans le huis clos de nos bureaux. Juste référence à l'intervention de Monsieur Fèvre, l'élaboration de notre nouvelle offre de service. Elle a été travaillée depuis le début de l'année 2011 avec des partenaires locaux, avec les associations et les partenaires sociaux qui composent notre conseil d'administration, avec les pouvoirs publics pour une partie d'entre elles. Donc c'est un mécanisme qui a été élaboré pour répondre aux objectifs généraux que s'était fixé notre maison et qui correspondent assez simplement à ce que lui confie la loi et les responsabilités que lui confie la loi. À partir de ce mécanisme, effectivement, nous devons faire en sorte d'avoir, vis-à-vis de l'ensemble des personnes en France, une politique d'intervention qui soit homogène, disponible et efficace. Ce qui passe nécessairement par en ayant, j'allais dire, une épine dorsale commune, assez largement commune, la marge de manœuvre se situant localement autour autour de la mise en œuvre, de l'interaction entre les prestataires, PPS et Cap Emploi, par exemple, ou autres. Et donc, ce registre-là, c'est bien aussi pour répondre à une mission de base qui est d'offrir au plus grand nombre possible de personnes les services de la meilleure qualité possible. Ensuite, la question de la quantité, effectivement, cette quantité-là, elle est dépendante de la ressource effectivement disponible. La GFIP fonctionne depuis son origine sur un principe d'une contribution qui est celle des employeurs de droit privé, qui varie tous les ans, que l'on s'efforce de prévoir de la façon la plus fine possible. Jusqu'à présent, ça marchait à peu près correctement, mais qui est dépendante de l'activité économique et notamment de la masse salariale, des effectifs dans les entreprises assujetties. C'est le premier facteur. Donc, effectivement, notre politique pour rester relativement stable, il faut lui déterminer des points communs. Et la part variable étant effectivement celle de la part de risque que nous prenons et que nous faisons prendre à nos partenaires services pour la mettre en œuvre avec ce critère de variabilité du nombre de prestations ou de services disponibles.
Alors, Monsieur Stone, je voudrais vous donner la parole en ce moment, puisque pour sortir un peu de ce dialogue entre... et changer un peu de perspective. Vous êtes dans une entreprise privée, vous en êtes le manager, vous êtes sur le management des politiques d'embauche. Est-ce que ce discours évoque chez vous quelque chose de particulier, de fort? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous le comprenez ou pas?
Alors pour commencer, je vous prie de m'excuser parce que je vais sans doute avoir un discours un peu décalé par rapport aux autres intervenants, aussi bien hier qu'aujourd'hui. Pourquoi? Premièrement parce que je connais pas très bien le handicap, donc je connais encore moins bien le handicap sensoriel. Donc intervenir dans un colloque qui est sur le handicap sensoriel, c'est un peu compliqué. Mais j'espère qu'il y a quand même des raisons derrière cela. Mais pour finir à m'introduire, je dis quand même, parce que c'est important, je pense, je suis une personne handicapée, j'ai un bras droit qui est paralysé. Je dis parce que ça se voit pas forcément, et puis a priori aussi on est malvoyant ou non-voyant, on le voit pas. Je dis parce que ça, je pense que ça a quand même une influence sur les propos que je vais avoir. Alors, j'ai entendu beaucoup le mot diversité. Moi, je travaille sur le mot diversité. Je travaille sur les diversités. C'est un sujet, en revanche, contrairement au handicap, que je connais plutôt bien. Je travaille dessus plutôt depuis 20 ans. Au début, à travers l'élément interculturel, donc l'étude des différentes cultures, les différences entre les différentes cultures. Et plus récemment, à partir de 2005, sur toute la notion de la lutte contre la discrimination et la promotion de la diversité. Donc, je dis 2005 parce que c'est la date de la loi sur le handicap, la dernière loi sur le handicap, mais à cette époque-là, sur les autres sujets de la diversité, très honnêtement, les gens ne faisaient strictement rien. Et donc, je commençais à travailler sur le sujet avant que ça devienne une mode, parce qu'aujourd'hui, c'est presque une mode. Donc, j'interviens sur le sujet de la discrimination et sur la diversité. Donc, la diversité, c'est quoi? Tout d'abord, il y a quatre grands thèmes sur lesquels la plupart des entreprises qui interviennent sur le sujet interviennent de manière générale. Donc il y a le handicap, bien sûr, il y a l'âge, notamment par rapport aux seniors, mais un peu par rapport aux juniors. Il y a l'égalité homme-femme, sur laquelle on travaille de plus en plus, parce que là-dessus, il y a des obligations légales assez récentes. Et dernier sujet qui est plus compliqué souvent pour les entreprises, mais sur lequel ils essaient d'avancer aussi, c'est l'origine, notamment l'origine ethnique et sociale. Mais la diversité, pour moi, ça va largement au-delà de ça. La diversité, c'est aussi quoi? C'est aussi l'orientation sexuelle, c'est aussi le syndicalisme, c'est aussi les diplômes. Je reviendrai peut-être sur le sujet des diplômes tout à l'heure parce que c'est un sujet qui est important. Mais de manière générale, la diversité, c'est les parcours de vie, c'est la différence que chaque personne puisse apporter dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je travaille sur le sujet de la diversité, parce que je pense qu'une entreprise aujourd'hui peut être performante quand elle inclut des personnes différentes, avec des parcours différents, avec des visions différentes du monde, avec des visions différentes du management, avec les visions différentes des produits sur lesquels ils travaillent. À partir du moment qu'on accepte ces différences-là, l'entreprise peut être plus performante à la fin. Mais ça veut dire qu'il faut accepter les différences, et pour accepter les différences, la première chose, c'est déjà ne pas nier les différences. Et dans la culture française, moi qui ne suis pas tout à fait français, malheureusement pour moi, j'espère avoir adopté un peu l'école culturelle française depuis les 25 ans que je suis en France, mais malheureusement, heureusement, je garde quand même un trace de ma culture britannique quelque part, surtout pendant les matchs de rugby, mais bon, ça c'est un autre problème. J'en parle pas trop en ce moment. Il y avait une semaine vachement bien entre le moment où la France a perdu contre le Tonga et battu l'Angleterre, où j'ai dit très bien, mais depuis je la ramène un peu moins. Donc je ne sais pas pourquoi je parlais de ça.
À cause de la diversité.
À cause de la diversité. D'accord. Oui, donc pour moi, c'est cette notion de diversité qui apporte une richesse, mais il faut l'accepter. Je pense que dans la culture française, la notion d'égalité républicaine dans laquelle on grandit en France est une culture dans laquelle on a tendance plutôt à accentuer ce qui nous ressemble et a tendance à nier plutôt des choses qui nous différencient. Alors que moi, ce que je trouve intéressant dans la vie, ce que je trouve intéressant dans l'entreprise, c'est précisément les différences. Mais si on est dans une culture dans laquelle on a tendance à nier les différences, on ne peut pas profiter des différences. Je donne un exemple sur les peu de connaissances que j'ai sur le handicap. Il y a une étude qui a été faite récemment par des professeurs au CELSA,
Donc ils sont spécialistes de la communication. Et les professeurs, ils ont étudié toute une série de publicités qui ont été faites par les missions handicap, aussi bien des entreprises que des collectivités territoriales. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tendance en ce moment à plutôt, je dirais, banaliser les handicaps et dire qu'il faut recruter les personnes handicapées parce que les personnes handicapées sont comme les autres. Alors, est-ce que nous, personnes handicapées, sommes comme les autres? Si on prend ça dans le sens, chaque personne a quelque chose de différent à apporter et donc la différence est bien, à ce moment-là, c'est plutôt un signe positif. Mais c'est dans plutôt la notion qu'on est plutôt tous pareils, dire que les personnes handicapées sont pareilles que les autres, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va avancer vraiment sur le sujet. Et c'est surtout pas comme ça qu'on va dire que le fait d'avoir des personnes handicapées dans une équipe va apporter quelque chose de plus. Donc là-dessus, je dis, bon, ok, c'est bien la diversité, je dis que ça apporte des différences, ça apporte un bénéfice, mais quels peuvent être ces bénéfices? Donc je vais donner quelques exemples. Il y a un restaurant quick, je pense, en région parisienne, dans lequel le manager, pour des raisons personnelles, et c'est ça qui est intéressant, c'est souvent pour des raisons personnelles, elle a recruté un certain nombre de personnes handicapées, et il se trouve que ces personnes handicapées sont tous soit malentendants, soit non-entendants. Donc je pense que l'État, 10 personnes sur 50, qui est quand même un taux qui défie toute concurrence sur le sujet. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'elle dit que, premièrement, ces personnes ont une relation de travail parfaite avec les autres. Tout le monde arrive à se comprendre, alors qu'on a tendance à penser que quand on est sourd, on n'arrive pas à parler avec des gens qui ne signent pas, donc la communication est compliquée. Alors que là, ils arrivent très bien à parler entre eux et parler avec les autres, communiquer plutôt. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que premièrement, ces personnes sont moins absentes que les autres et que ces personnes restent plus longtemps que les autres. Elle est dans un environnement dans lequel le turnover est très important et les personnes malentendantes et non-entendantes qu'elle a recrutées sont des gens qui restent dans le travail. Donc ça veut dire qu'elle a un restaurant qui est plus efficace et plus performant que d'autres. Un autre exemple, toujours sur la surdité. ETDE, qui est une filiale de Bouygues Construction qui travaille sur le sujet du handicap depuis très longtemps. Dans une des équipes, ils ont recruté une personne sourde. Une personne sourde qui signe. Le manager direct ne signe pas parfaitement, mais plutôt bien. Donc les deux arrivent à communiquer plutôt bien. Dans les réunions d'équipe, c'est ça que je trouve intéressant. Dans les réunions d'équipe, ils utilisent, je pense que c'est ADO d'ailleurs qu'ils utilisent pour permettre la communication. Mais ils ont vu que le résultat d'avoir une personne sourde dans l'équipe était que, un, il y a beaucoup moins d'apartés dans la réunion qu'il y avait avant. Les gens parlent à tour de rôle, chacun les uns après les autres et pas tous en même temps. Que les gens écoutent les uns et les autres et que les gens font attention à ce qu'ils disent. Donc le résultat, c'est qu'ils passent beaucoup moins de temps à se faire chier en réunion parce qu'ils ont des réunions qui sont beaucoup plus productives. Mais c'est vachement important. On passe beaucoup de temps dans les entreprises, dans la réunion qui ne sont pas productives. Et eux, à cause, ou grâce plutôt au fait qu'il y a une personne sourde dans l'équipe, ils ont des réunions qui sont beaucoup plus efficaces. Donc je pense que ce n'est pas négligeable. Le dernier exemple, c'est un autre sujet qui est le sujet des femmes. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites, notamment par le grand cabinet de conseil McKinsey, qui montre qu'a priori, à partir d'un certain seuil, on met plutôt à partir de 30-35%, à partir d'un certain seuil de nombre de femmes, notamment dans le comité de direction, les performances financières des entreprises sont accrues. Après, c'est compliqué de faire le lien direct, la cause entre le nombre de femmes et la performance financière, mais il y a quand même une corrélation qu'on peut supposer qui existe pour une raison, pour cette raison-là. Pour finir là-dessus, en même temps, je donne des exemples de bénéfices de la diversité dans les entreprises. En même temps, je dis que j'essaie de travailler sur la diversité de manière générale. Alors, malheureusement, il y a peu d'études qui montrent que la diversité, dans le sens général, apporte une performance parce que la plupart des études sont focalisées sur une des populations. Pourquoi donc il faut travailler sur la diversité de manière générale? Premièrement, quand on travaille sur le handicap, quand on travaille sur le senior, quand on travaille sur l'égalité homme-femme, une des réactions souvent qu'on a dans les entreprises, c'est « mais c'est bien beau, de toute façon, vous faites ça uniquement parce qu'il y a une obligation légale, et s'il n'y avait pas d'obligation légale, vous ne travaillez pas sur le sujet. » Premier problème potentiel. Deuxième problème potentiel, c'est le fait de stigmatiser des populations. Quand on travaille sur certaines populations, on a tendance à les stigmatiser. Et je dirais que sans doute, pour moi, le plus compliqué, c'est aussi le rejet qu'on peut avoir de certaines populations qui sont pas, sur lesquelles on ne focalise pas. Je connais une entreprise cliente, par exemple, qui travaille sur trois sujets, surtout. C'est le handicap, c'est l'internationalisation et c'est l'égalité homme-femme. Donc les réactions des hommes blancs, non handicapés, hétéros, dans toute leur splendeur, c'est vachement sympa, mais faites quoi pour moi?
Je pense qu'on peut l'applaudir, oui. Alors, On voit bien comment un dialogue singulier à l'intérieur de notre culture, entre la GFIP et un des prestataires de services, tout à coup bascule dans une problématique qui devient extrêmement culturelle. Et c'est intéressant de voir comment une organisation technique, des réponses techniques, quand même dépendent de la manière d'interpréter, de comprendre culturellement les situations qui se posent à nous. Alors vous qui êtes chercheur, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur sur ce jeu qui se fait ?
Merci beaucoup. Donc, en tant que chercheur, je vais surtout pas. Je vais plutôt vous amener à, enfin, poser des questions. Hein, voilà, soulever des questions, peut-être un peu provocantes, je ne sais pas, mais ramener ces débats très passionnants en termes de questions. Effectivement, qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce que moi j'observe à travers ces débats ? On a des disputes, hein, au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire des oppositions dans des façons de faire qui s'articulent autour alors d'activités. Hein, de services, d'activités, qui, si on monte un peu plus, se transforment en des stratégies d'acteurs ou d'établissements qui sont différentes. Et c'est logique, hein, chaque établissement, chaque organisation a ses stratégies. Et si on et tout ça est outillé hein, par des outils, la statistique, un parcours de santé, un dossier qui permet de suivre une personnalisation d'une intervention, des outils. Et au nom de ces éléments que l'on paraît structurants, on a l'impression qu'il y a une vérité qui se derrière tout cela. Et ce qui est effectivement, ce que l'on voit beaucoup, c'est que des outils, notamment hein, qui paraissent sur la statistique, par exemple, pour prendre cet exemple, mais ça peut être autre chose, parce que l'outil paraît être structurant, parce qu'il nous donne des chiffres, des colonnes et des flèches qui montent et qui descendent, ça paraît être une vérité. Hein. Alors que finalement, ces outils de collecte de données et qui permettent de décider hein, ne sont en fait que des chiffres que l'on aligne hein, et tout ce qui ont une certaine validité que l'on va appeler interne, hein, parce que quand on utilise le même outil pour mesurer à des périodes d'écart tous les 6 mois ou tous les 1 an, ça mesure effectivement une progression, une évaluation, mais ça nous dit rien sur ce qu'on appelle la validité externe de ces outils. C'est-à-dire, est-ce que l'outil est bien adapté pour mesurer ce que l'on veut mesurer, hein ? Et c'est là où, effectivement, à travers cette question, on arrive à ce qu'on peut peut-être nommer des débats un peu plus sur un niveau culturel, ou à travers le culturel, ce que l'on voit un débat sur, finalement, quelles sont nos valeurs, nos croyances, nos connaissances que l'on a sur ce qui nous occupe, hein, ici l'insertion professionnelle de personnes handicapées, et est-ce qu'on les partage tous ensemble, et comment est-ce qu'on construit ces connaissances-là, hein. Et c'est là où, effectivement, on arrive à ces mots gros, hein, pour pas dire gros mots qui ont été prononcés tout à l'heure, est-ce qu'on voit les prémices, les émergences d'un nouveau paradigme, hein. Alors, qu'est-ce que veut dire cette notion de paradigme ? Ça veut dire qu'à un moment donné, les acteurs d'un même champ, hein, l'insertion professionnelle, le handicap, faut-il encore définir ce champ, hein, mais en tout cas d'un même champ, vont partager ensemble une même représentation de la société, de ce pourquoi ils sont ensemble. Alors, évidemment, à l'intérieur de ce paradigme-là, des stratégies différentes d'acteurs sont possibles, des outils de suivi sont possibles, etc. Mais malgré la différence de stratégie, la différence d'outils, la différence de mots qui sont utilisés, derrière, il y a quand même une trame en commun qui est un même système de valeurs, de connaissances autour de ce champ qui nous anime, étant l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Alors, ce qui, à mon sens, est intéressant pour ces débats, est peut-être moins de se demander est-ce qu'on est sur un paradigme stabilisé, que de se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de paradigme, c'est-à-dire d'essayer de voir en quoi ces confrontations opposent ou n'opposent peut-être pas finalement, hein, et comment on pourrait, à travers, en employant d'autres vocabulaires ou d'autres prismes de regard, clore les disputes, comme on dit, et apporter une réponse constructive, hein, et non pas effectivement rester sur la dispute. Alors, on a beaucoup discuté de rugby, mais aussi de diversité au moment du déjeuner, donc avec Monsieur Stone. Et effectivement, alors à travers ce terme de diversité, vous avez utilisé le terme de discrimination positive, mais en tout cas, je dirais qu'à travers ce terme de diversité, on a l'arrivée de mots alors très chargés, hein, tout comme la personne handicapée, la prestation, etc. Ce sont aussi c'est des mots très chargés, mais on a l'arrivée de mots qui viennent de champs différents, donc qui portent des référencements culturels et des pratiques d'organisations, d'entreprises, d'acteurs, de fédérations, etc., qui sont très différents. Et pour moi, l'intérêt de ce mot qui arrive un petit peu de manière frontale, c'est peut-être d'abord d'ouvrir les boîtes noires que l'on n'ose pas ouvrir lorsqu'on parle de prestations, de rationalisation, de personnes handicapées au cœur du système, tout un ensemble de vocabulaire qu'on questionne plus. Donc on ouvre la boîte noire et dès lors, alors premier avantage, on questionne les mots. Et là, effectivement, en questionnant les mots, on peut peut-être trouver des points d'ancrage qui vont réunir les stratégies des uns et des autres. Et deuxième point, c'est qu'en utilisant des mots nouveaux, on évite d'utiliser des mots qui étaient plutôt perturbateurs et qui nous cristallisaient sur rapidement des disputes idéologiques. Là, on donnait un tout autre exemple. Faut-il parler effectivement de... Quelle est la différence pour moi de parler en termes de diversité ou de handicap ? C'est que dès lors, on évite peut-être en parlant... Enfin, c'est mon point de vue, de chercheur. Donc après, vous en faites les réponses que vous faites. Ici, je donne un exemple sur ce terme-là. J'aurais pu donner un autre exemple ailleurs. Le handicap va cristalliser des oppositions assez ancrées, qu'on n'ose pas dépasser parce que le champ est forgé ici et que dépasser ou remettre en cause ces tensions qui existent au terme de handicap, ça veut dire aussi de remise en cause de telle et telle fédération, de cristallisation politique et sociale d'un champ, etc. Si on intervient à travers un autre terme diversité, dès lors, en fait, on remet un peu à plat c'est ce réseau social, ce réseau qui structure toute la construction de la connaissance dans un champ, et on intervient différemment. Donc, en ce sens, effectivement, ce qui est intéressant dans ces lieux de débat et de discute, c'est l'intervention sur des mots nouveaux et sur des prestations, des actions ou des prestations originales. Qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, c'est pas mon objet et c'est pas l'objet là, en tout cas pas du tout de mon intervention, mais que ça oblige à regarder différemment des choses trop acquises, trop cristallisées, qu'on ne questionnait pas. Et en ce sens-là, effectivement, alors tout ça forme ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire un ensemble de croyances et de valeurs, avec des modèles d'action que ça porte derrière, des réseaux d'acteurs, des experts, des politiques, des praticiens, etc., des professionnels qui diffusent et qui mettent en œuvre ces réseaux d'acteurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment cela bouge, d'où ça bouge, pour remettre en cause, effectivement, souvent des choses figées et qui évitent de progresser de progresser dans un débat et donc de progresser dans des pratiques.
Merci beaucoup. Alors, essayons à partir de ce point de stabilité ou d'équilibre retrouvé un tout petit peu, à partir de là, même si le temps passe et la frustration augmente parce qu'on dira pas tout, de faire un dernier tour de table autour d'un des éléments conceptuels de la table ronde, à savoir ce qu'on appelait la dynamique territoriale. Alors, dans les paradigmes nouveaux, qui pas forcément imposés par la loi de 2005, mais dans les paradigmes nouveaux de fonctionnement de nos politiques sociales, il y a ce mot de dynamique territoriale, réseau, maillage des territoires, coopération, etc., etc. Alors, comme on investit le champ culturel, on va poser des questions qui sont moins, je dirais, idéologiques ou institutionnelles, mais on va les poser sur culturellement. Alors, je demanderai donc à Monsieur Parizeau, mais par rapport à la GFIP, c'est quoi pour vous culturellement une dynamique territoriale ?
Pour nous, c'est très pragmatiquement la capacité à organiser et à rendre efficiente la relation entre nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou opérationnels. C'est comment le handicap va pouvoir se disséminer, s'intégrer dans ses approches, en tout cas dans les politiques, dans les institutions. Comment les personnes handicapées pourront-elles y trouver une place et pas simplement une place à côté ou un strapontin en particulier. Ça peut se résumer effectivement à ce type d'analyse.
Donc on est vraiment dans le champ de, alors on peut l'appeler d'une démocratie réelle, où les personnes handicapées vont demander aux prestataires de services que nous sommes et que vous êtes, du coup, de répondre à leurs besoins dans les territoires.
Alors, je ne sais pas si ça se caractérise ou si ça se traduit concrètement par cela, mais pour nous, le métier, il tourne autour de cette capacité à fédérer et à faire travailler les opérateurs de notre champ, sur une dynamique convergente. Le problème de la formation professionnelle, qui n'est pas le seul problème de l'emploi des personnes handicapées, mais qui en est un, nous n'en possédons qu'une très faible partie des clés. Nous avons une représentation assez lucide de nos possibilités, de nos capacités. On sait très bien que la politique de la formation professionnelle en France, c'est les régions, c'est les partenaires sociaux pour l'essentiel. Voilà. Très concrètement, permettre aux personnes handicapées d'accéder à la formation professionnelle, c'est effectivement traduire de façon pratique, aussi bien vis-à-vis des partenaires institutionnels que des acteurs locaux qui peuvent travailler sur cette notion de prescription, qui est une notion qui est le levier opérationnel concret de base de faire accéder une personne handicapée à une formation, c'est une action sur le prescripteur. Et ce travail d'action territoriale, il se travaille de cette façon-là et à ce niveau-là, aussi bien au niveau institutionnel qu'au niveau pratique et opérationnel.
Et donc toi, Patrick, est-ce que tu as la même vision de la dynamique territoriale ?
Oui. Et il nous appartient effectivement de réconcilier des politiques économiques et des politiques sociales.
Ça s'appelle la justice sociale.
Voilà. Alors, moi, je pense effectivement que sur un territoire, il y a d'abord à mobiliser intelligemment le réseau des acteurs, puisque la GFIP a choisi de recourir à des opérateurs généralistes. Notre offre de service, évidemment, doit s'articuler au mieux avec celle des opérateurs généralistes qui sont la plupart du temps en première ligne. Nous sommes souvent, nous, derrière, mobilisés en second lieu. Il faut quand même bien dire que pour les personnes concernées par le handicap, c'est loin d'être simple. Quand nous les appelons, elles se demandent pourquoi on les appelle. Il y a déjà eu deux référents Pôle emploi, un référent Cap emploi, parfois des organismes de formation. C'est un petit peu compliqué, c'est déjà un parcours du combattant d'arriver à rencontrer la personne qui est en situation de comprendre et de bien accompagner la spécificité de la personne déficiente sensorielle. Mais je pense dans tous les cas que l'échelle régionale est une échelle intéressante pour mettre en réseau les compétences, parce que bon, c'est d'abord une échelle d'intervention de la GFIP, c'est l'échelle d'intervention aujourd'hui des agences régionales de santé. Il y a des objectifs d'articulation autour de la notion de parcours de soins et d'accompagnement des personnes. Et je pense que la mise en place, comme ça commence à se faire actuellement, de pôles régionaux de déficience sensorielle est sans doute une réponse intéressante, parce qu'elle va rendre lisible cette offre de services spécifique, même si transitoirement la spécificité n'est pas reconnue en tant que telle et qu'elle rentre dans un dispositif qui mobilise d'abord des généralistes en première ligne. Voilà, donc c'est un principe de réalité. La stratégie que nous pouvons adopter, c'est d'accompagner intelligemment cette évolution dans le cadre de ce nouveau paradigme en mettant en réseau les acteurs régionaux.
Madame Grenier, sur cette question de la dynamique territoriale.
Alors toujours, je vais répondre en creux en posant des questions, j'aurais tendance pour susciter le débat ou autre, c'est dire pourquoi depuis quelques années le territoire est un mot qu'on ne peut plus éviter dans un discours, dans une table ronde, dans un écrit. Il y a 10 ans c'était projet, il y a 15 ans c'était jeûner. Maintenant c'est c'est le territoire. Voilà, si on parle pas de territoire, c'est qu'on est passé à côté des enjeux dits actuels, etc. Voilà, tout est territoire. Il y a 10 ans, tout était projet. Il y a 10 ans, tout était coordination, pour reprendre ce terme que je vais aussi questionner. Il y a 15 ans, personne ne faisait la coordination. On a vu effectivement beaucoup de dispositifs de coordination se mettre en place, et c'est très bien. Actuellement, il n'y a plus un seul acteur qui dit qu'il ne fait pas la coordination. D'ailleurs, on se demande qui ne fait pas la coordination actuellement. Donc, pourquoi effectivement ce terme de territoire, qui est par ailleurs très séduisant, etc., mais regardons en creux et regardons en creux donc du coup, en quoi ils nous interpellent hein, dans ces éléments qui peuvent devenir un peu sclérosants et un peu négatifs hein, et qu'on pourrait tendance à avoir oublié. Le territoire, ça peut être pour des responsables d'établissement, des directeurs de structures ou des acteurs de politique publique d'ailleurs, c'est avec qui je fais. Hein, ou comment je décide collectivement. Et là, effectivement, c'est le territoire qui nous permet, ben, parce qu'on connaît mieux les acteurs locaux, de dire je vais m'associer différemment. Hein, et on a une notion là de territoire, de gouvernance territoriale. Hein, on a le terme de gouvernance qui est associé. Le territoire, c'est aussi une notion de avec qui je fais parce que je me ressemble. Hein. Le territoire, c'est quelque chose, si on appartient au même territoire, c'est qu'on est assez ressemblant. Hein. Donc on fait ensemble parce qu'on est assez similaire, assez proche. Donc là, effectivement, ça questionne beaucoup le territoire et la diversité. Hein, parce qu'on sait qu'un territoire, en général, n'a plus tendance à se rassembler entre gens avec qui on estime être proche. Cette proximité étant pouvant être des proximités d'âge, de sexe, de race, de culture, à chacun de définir sa proximité, mais, et à l'inverse, sa diversité. Mais en tout cas, c'est cette notion de ressemblance. Et donc, si on va un peu plus loin, le territoire, ça devient le repli sur soi, le communautarisme au sens négatif du terme. Et là, on perd ces éléments qui étaient dits tout à l'heure. Où est le rôle d'éléments un peu plus englobants comme un État, par exemple, qui est l'égalité et l'équité. Hein. Et puis enfin, le territoire, il y a aussi, de manière un peu en creux, hein, cette idée que, bien sûr, dans tous vos propos, il y a cette idée d'agir au mieux, agir au plus efficace, mais pour certains acteurs, ça va être aussi contrôler au mieux. Hein. Et on voit bien que si... plus on est au plus près de là où ça se fait, mieux on veut contrôler. Hein. Donc derrière cette notion de territoire, par des autorités publiques ou autres, hein, ou par des organisations, des entreprises qui s'organisent en filiales, en agences et autres, hein, c'est une notion de contrôle au plus près. Donc voilà ce que me suggéraient ces notions-là, c'est que ce territoire est un beau concept, mais attention à savoir de quelle arme, enfin comment il est armé et comment il est utilisé hein, ou instrumentalisé effectivement par différents parties prenantes ou par différents acteurs. Est-ce qu'on est dans des logiques véritablement de gouvernance? Est-ce qu'on est dans les logiques aussi de maintien d'une certaine diversité et de maintien aussi d'un projet collectif d'une société, d'un État hein, parce que... il y a aussi l'État qui est porteur de politiques publiques et d'égalité et d'équité. Et puis, attention aussi à ne pas faire du territoire des instruments de contrôle au détriment des marges de manœuvre, d'expérimentation, d'innovation, d'essaimage, de pratiques en toutes sortes.
Je voudrais juste terminer la table ronde par une nouvelle interpellation de Pitstone avant de vous donner la parole pour rester dans le timing et permettre à Charles Gardou d'intervenir. Donc, Monsieur Stone, vous découvrez le secteur, vous découvrez le handicap sensoriel, tous ces jeux de langage, ces jeux sémantiques. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, ça c'est intéressant parce que c'est un Anglais qui va vous parler du vocabulaire français, donc je vous prie de m'excuser encore une fois. Ce que je trouvais intéressant déjà, c'est l'évolution du langage par rapport au handicap. Donc, je crois qu'au moins les gens qui sont dans cette salle, même si c'est pas le cas de tout le monde en France aujourd'hui, mais là, au moins les gens ici savent qu'on ne parle plus normalement de handicapés, mais de personnes handicapées. Parce que encore aujourd'hui, on entend très souvent handicapés, voire encore pire, les handicapés. Mais bon, ça c'est plus un problème de français. On est des personnes handicapées parce que avant d'être handicapé, on est des personnes. Donc le terme de personne handicapée, c'est un terme pour moi qui est très important. Après l'évolution vers le terme de personne en situation de handicap, très honnêtement, la première fois que j'ai entendu la personne avec qui m'a raconté le terme, qui était une amie, je dis mais parce que je suis pas très politiquement correct, et je dis honnêtement, appelons un chat un chat. Et après, j'ai compris effectivement qu'on peut être une personne en situation de handicap sans être handicapé. Ce qu'on admet un peu moins facilement, mais je pense qu'il est vrai aussi, qu'on peut être une personne handicapée sans forcément être une personne en situation de handicap. Dans ce sens-là, c'est un peu plus rare. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le contraire. Je suis une personne handicapée, je pense qu'il y a d'autres personnes handicapées ici dans la salle. Et ce qu'on met en avant, au contraire de la personne handicapée, c'est la personne valide. C'est le terme officiel, la GFIP l'utilise, la plupart des gens dans la salle l'utilisent, l'État l'utilise, tout le monde parle de personne valide. J'ai toujours exécré ce mot, et j'ai jamais su pourquoi, mais je soupçonnais que c'était un mot porteur de beaucoup de sens que je n'imaginais pas. Donc j'ai regardé. Donc première chose que j'ai regardé, c'était dans le littré, et j'ai regardé les synonymes du mot valide. Et je trouvais valable, je trouvais vigoureux et je trouvais vivant. Ok. Donc, je suis personne handicapée, donc je ne suis ni vivant, ni valable, ni vigoureux. Ok. Bon, à la limite, ça passe. Mais bon, c'est pas terrible, mais bon. Après, j'ai regardé les antonymes. Cette fois-ci, j'ai regardé dans le Robert pour multiplier mes sources, pour pas me planter trop. Donc, les antonymes, les contraires du mot valide. Là, je me rappelle plus de tout, mais j'ai trouvé impotent, invalide et estropié. Bon, estropié, personnellement, j'utilise pas mal pour moi, mais c'est parce que j'aime bien ne pas prendre toujours sérieux mon handicap, mais je me permets de l'utiliser quand les gens l'utilisent autrement. Je suis pas toujours aussi sûr du mot. Mais après, je dis, mais le mot valide, alors, ça veut dire quoi exactement? Donc, j'ai regardé aussi dans le Robert, et le premier sens, c'est qui est en bonne santé. OK, donc je suis handicapé, donc je ne suis pas en bonne santé. Très bien. Et après, le mieux, la deuxième définition dans le Robert en 9 volumes du mot valide, c'est capable de travail. Génial. Bah, on me donne un salaire, enfin, je suis plus salarié, mais quand je dis salarié, j'avais un salaire à la fin de tous les mois, mais pas sans être capable de travailler, donc on me donne des salaires pour pas travailler, je trouve ça plutôt intelligent. Pour finir là-dessus, le problème avec ce mot donc valide, et moi je dis, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'utilise toujours le mot non handicapé, parce qu'on a toujours défini les personnes handicapées parce ce que les personnes handicapées n'ont pas par rapport aux personnes non handicapées. Je trouve ça vachement bien de définir les pauvres personnes non handicapées par ce qu'elles n'ont pas, qui est un handicap. Donc déjà, je trouve ça intéressant de ce sens-là. Et pour finir, le problème avec les mots, c'est que les mots nous amènent à regarder le monde et les mots créent des stéréotypes. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, il y a une étude très très intéressante sur les stéréotypes qui a été faite par un collègue et néanmoins ami qui s'appelle Patrick Charnitsky. Donc S-C-H-A-R-N-I-T-Z-K-Y, Charnitsky, oui c'est ça. Donc une étude de Patrick a fait avec l'IMS, avec 4 entreprises. Donc ils ont fait une étude auprès de plus de 500 managers sur les stéréotypes liés au handicap. Donc déjà c'est très intéressant de constater quels sont les stéréotypes liés au handicap. Donc évidemment on trouve que toutes les personnes handicapées sont en fauteuil roulant, etc., etc., etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quelles actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les stéréotypes sur le handicap. Et là très clairement, l'étude montre que la manière de faire évoluer les stéréotypes dans le bon sens par rapport au handicap, c'est que les gens travaillent au quotidien avec les personnes handicapées. Et c'est uniquement comme ça qu'on fait évaluer les stéréotypes. C'est-à-dire que quand les gens travaillent au quotidien avec quelqu'un handicapé et se rendent compte au quotidien que la personne handicapée est aussi compétente qu'une personne non handicapée, à ce moment-là, les stéréotypes bougent.
Donc, en conclusion provisoire de cette table ronde, on va dire que le projet politique de la FISAF sur cette question-là va être de faire travailler dans les territoires pour une meilleure dynamique territoriale des personnes handicapées et des personnes non handicapées.